L'enfant sans père. Les messagers furent donc envoyés à la recherche de l'enfant. Ils partirent deux par deux et explorèrent bien des régions sans rien trouver. Un beau jour, deux d'entre eux en rencontrèrent deux autres et ils décidèrent de faire route ensemble un certain temps. Les quatre cavaliers traversèrent un vaste champ à l'entrée d'une ville où tout un groupe d'enfants jouait à la choule. Merlin était parmi eux. Rien ne lui échappait. Et il remarqua les messagers de Vertigier. Il s'approcha alors d'un des garçons les plus riches de la ville, qui lui avait toujours marqué son antipathie. Haussant son bâton, il en donna un coup sur la jambe de l'enfant, qui se mit alors à l'injurier. Maudit sois-tu, fils sans père! Les messagers, dressant l'oreille, se dirigèrent aussitôt vers l'enfant. Qui est celui qui t'a frappé? C'est le fils d'une femme qui n'a jamais su qui était le père de son enfant. Il n'a donc pas de père, ou c'est tout comme. Merlin l'entendit, il éclata de rire et s'approcha des messagers. Seigneur, je suis celui que vous cherchez, et dont vous devez rapporter le sang au roi Vertigier. Stupéfaits, ils se regardèrent. Qui t'a dit cela? L'interrogèrent-ils. Je le sais parfaitement, depuis le moment même où vous l'avez juré. Viendras-tu avec nous si nous te le demandons? J'aurais bien trop peur d'être tué. Merlin savait bien qu'il n'en avait déjà plus l'intention, mais il le disait pour entrer dans leur jeu. Il reprit. Mais si vous promettez de ne pas me faire de mal, je vous suivrai, et je dirai au roi pourquoi sa tour ne peut tenir debout, cette tour pour laquelle vous vouliez mon sang. Cet enfant tient des propos extraordinaires, se dirent-ils entre eux, frappés d'étonnement. Ce serait une faute grave de le tuer. Il vaut mieux nous parjurer. Seigneur, leur dit Merlin, venez avec moi jusqu'à la demeure de ma mère. Je ne pourrai vous suivre sans sa permission et celle du prêtre qui la conseille. Nous te suivrons où tu voudras. Merlin les emmena au couvent de nonnes où vivait sa mère, et il demanda qu'on les reçoive. On leur fit bon accueil, et dès qu'ils eurent mis pied à terre, l'enfant les mena auprès de Maître Blaise. Blaise, voici les personnes dont je t'ai annoncé la venue. Comme je te l'avais prédit, ils me cherchaient pour me tuer. Puis, se tournant vers les messagers, il ajouta. Seigneur, je vais dire à ce saint homme quelles sont vos intentions et ce que je vous demande en retour. Vous lui confirmerez que c'est bien l'entière vérité. Soyez sûr que si vous mentez, je m'en apercevrai. Oui, raconte-lui l'histoire. Quant à nous, sois certain que nous ne mentirons pas. Écoute donc bien, dit Merlin à Blaise, ce que sont venus faire ces hommes. Seigneur, vous appartenez à un roi appelé Vertigier. Ce roi veut faire bâtir une tour, mais à peine a-t-elle atteint 3 ou 4 toises qu'elle s'écroule. Le roi a fait appel à des clercs pour en savoir la raison. 7 d'entre eux ont prétendu l'éclairer, ils ont consulté les astres, mais en fait, ils n'ont pu percer le mystère de la tour. En revanche, ils ont appris mon existence et ont pensé que je pouvais leur nuire. Ils ont alors formé le projet de me faire tuer et ont affirmé au roi que le seul moyen de faire tenir la tour était de mêler à son mortier le sang de l'enfant né sans père. Vertigier, impressionné par leur réponse, a cru qu'ils disaient la vérité et il a ordonné, conformément à leur demande, qu'on me recherche, mais sans m'amener devant lui. Les messagers devaient donc me tuer et apporter au roi mon sang. Ces quatre-là m'ont finalement trouvé. Je savais bien qu'ils étaient en quête de moi et je me suis fait connaître alors en frappant un autre enfant pour qu'il me nomme en m'injuriant. J'étais sûr qu'en m'entendant traiter de fils sans père, ils sauraient qu'ils avaient atteint leur but. Et maintenant, mon cher maître, demande-leur si j'ai dit la vérité. À la question de Blaise, ils répondirent d'une seule voix. Il a dit la vérité, tout s'est passé ainsi. Si cet enfant vit, s'écria Blaise, il sera un grand sage. Quel malheur si vous l'aviez tué! Seigneur, plutôt nous parjurer et voir nos biens confisqués par le roi. Cet enfant, qui sait tout, connaît nos intentions les plus cachées. Puis-je être sûr, demanda Blaise à Merlin, qu'ils n'ont pas l'intention de te tuer? Je le sais en toute certitude, répliqua Merlin en riant. Dieu merci, ils n'en ont aucune envie.
C'est exact, répondirent les messagers. Mais viendrez-vous avec nous, cher enfant?
Oui, sans hésiter, si vous jurez de me conduire en toute sécurité devant le roi, pour que je puisse lui parler.
Ils lui firent cette promesse. Merlin, dit alors Blaise, je vois bien que tu veux me quitter. Que dois-je faire désormais de l'œuvre que tu as voulu que j'entreprenne pour toi?
Je vais te répondre franchement. Dieu m'a donné tant de sagesse et d'intelligence que le diable, qui croyait m'avoir à son service, m'a perdu. Dieu m'a choisi comme serviteur, et tu vois bien que personne ne peut faire ce que je fais. Je dois aller dans ce pays auprès du roi dont les envoyés sont venus me chercher. J'y deviendrai l'homme le plus écouté de la terre, excepté Dieu. Tu y viendras à ton tour pour mener à bien l'œuvre que tu as commencée, mais tu ne resteras pas auprès de moi. Tu iras seul dans un pays appelé Northumberland. C'est une terre sauvage, recouverte de grandes forêts, et en partie inexplorée, car elle compte peu d'habitants. Tu vivras là, et je viendrai t'y retrouver. Je te raconterai alors tout ce que tu dois savoir pour poursuivre ton œuvre. Ta tâche sera lourde, mais ta récompense magnifique. Après ta mort, tu connaîtras la béatitude éternelle, et, sur terre, on écoutera avec plaisir la lecture de ton livre, et cela jusqu'à la fin du monde. Pour moi, sache que Dieu m'a préparé une tâche considérable dans le royaume où j'irai. Je dois travailler à l'avènement d'un roi qui naîtra d'un lignage aimé de Dieu. Ce règne béni ne viendra qu'avec le quatrième roi de ce lignage, qui s'appellera Arthur. Mais maintenant, va où je t'ai dit. Je te rendrai souvent visite pour te dicter ce qu'il faut consigner dans ton livre. Cette histoire de ma vie et du royaume d'Arthur, nul homme, fou ou sage, ne l'entendra sans être rempli d'admiration. Ainsi parla Merlin à son maître. Il l'appelait maître, car Blaise était un saint homme et le conseiller de sa mère. Tout ce que tu me demandes, je le ferai, répondit Blaise.
Merlin vint alors trouver sa mère en compagnie des messagers.
Ma chère mère, voici qu'on est venu me chercher d'un royaume lointain. Je veux y aller avec votre permission, car il est temps que je rende à Dieu ce qu'il m'a donné en me mettant à son service. Nous devons donc nous séparer. Blaise, votre maître, s'en ira aussi. Mon cher fils, que Dieu vous protège. Il n'est pas dans mon pouvoir de vous garder. Je ne le dois ni ne le veux. Mais j'aimerais que Blaise reste.
Cela n'est pas possible, répondit Merlin. Il prit donc congé de sa mère et partit avec les envoyés du roi. Blaise, lui, se rendit en Northumberland comme il en avait reçu l'ordre. Merlin prit donc la route avec les quatre messagers. Ils traversèrent un jour une ville où se tenait un marché. À la sortie de la ville, ils aperçurent un paysan qui avait fait l'achat d'une paire de souliers et d'une grande pièce de cuir. Il devait partir en pèlerinage et voulait emporter avec lui ce cuir pour réparer ses chaussures quand elles seraient en mauvais état. Quand Merlin vit le paysan, il se mit à rire. Les messagers lui demandèrent pourquoi il avait ri.
« C'est à cause de ce paysan. Demandez-lui ce qu'il compte faire de ce cuir, et il vous dira que c'est pour réparer ses souliers.
Suivez-le alors, et vous verrez qu'il mourra avant d'arriver chez lui. » « Nous allons bien voir si cela est vrai, » dirent les messagers, fort étonnés de la prédiction. Ils rattrapèrent le paysan et lui demandèrent ce qu'il comptait faire du cuir. Il leur répondit qu'il allait partir en pèlerinage et qu'il aurait certainement à réparer un jour ses souliers. C'étaient les paroles mêmes de Merlin. Stupéfaits, ils se regardèrent. « Cet homme semble pourtant en parfaite santé. »
« Deux d'entre nous vont le suivre. Les deux autres poursuivront leur route avec l'enfant et attendront au prochain gîte.
Nous verrons bien ce qui se passera. »
Ainsi fut fait.
Deux messagers suivirent le paysan. Ils n'avaient pas fait une lieue qu'ils virent l'homme tomber mort au milieu de la route, ses souliers sous le bras. Après avoir constaté qu'il était bien mort, ils rejoignirent leurs compagnons, à qui ils racontèrent cette nouvelle étonnante. Tout ce qui avait été prédit s'est réalisé, et dire que les clercs ont ordonné de tuer un enfant d'une telle sagesse. Plutôt être livré au supplice que d'obéir.
Ils discutaient ainsi, persuadés que Merlin, qui chevauchait à l'écart, n'en savait rien. Mais celui-ci se rapprocha d'eux pour leur dire
« Merci à vous, cher seigneur, pour les paroles que vous venez de prononcer. Et qu'avons-nous dit pour mériter des remerciements ?»
Quand l'enfant leur eut rapporté leurs propos, ils s'exclamèrent émerveillés. « Nous ne pouvons rien faire ou dire sans qu'ils le sachent. »
Ils chevauchèrent durant de longues journées et parvinrent au royaume de Vertigier. Comme ils passaient devant une ville, ils aperçurent un cortège. On enterrait un enfant. Hommes et femmes suivaient le corps, en proie à une grande douleur. En entendant les prêtres et les clercs chanter leurs cantiques, en voyant la foule se lamenter, Merlin s'arrêta et se mit à rire.
Tout surpris, les messagers lui demandèrent pourquoi.
« N'as-tu pas pitié de ces gens dans la douleur ?»«
Je ris d'un spectacle bien curieux. »«
Et lequel ?»«
Voyez-vous cet homme qui pleure et se lamente en proie au désespoir ?»«
Oui, bien sûr. » »«
Et ce prêtre qui chante en tête du cortège ?»«
C'est lui qui devrait être désespéré,
et non l'autre. »«
Et pourquoi ?»«
Eh bien, en voici la raison. L'enfant défunt, pour qui le prêtre chante l'office des morts, est en réalité son fils, et il n'a aucun lien de parenté avec celui qui se désole si fort.
N'est-ce pas un spectacle peu ordinaire ?
Comment en être sûr ?
Allez donc trouver la mère. Demandez-lui pourquoi son mari pleure et se lamente, et elle vous dira que c'est à cause de la mort de son fils.
« Dame, lui direz-vous, nous savons que cet enfant n'est pas le sien, mais celui du prêtre qui chante si bien l'office. »
« Le prêtre lui-même le sait fort bien, ainsi que le jour où il a été engendré. »
Les messagers allèrent trouver la femme et la prirent à part, lui répétant les paroles de Merlin.
Elle fut épouvantée.
« Cher seigneur, pitié, au nom de Dieu, oui, je vous avouerai tout, car c'est l'entière vérité. Mais pour l'amour du ciel, ne dites rien à mon mari, car il me tuerait. »
Ils la laissèrent pour aller retrouver Merlin.
« Vraiment, se disait-il, nous n'avons jamais vu pareil devin. »